Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Patrick Poivre d'Arvor, merci de nous recevoir dans votre boîte de production. Donc, vous venez de publier avec votre frère Olivier « Jusqu'au bout de leurs rêves » aux éditions Place des Victoires en 2010. Dans l'introduction de cet ouvrage, vous m'arrêterez si je me trompe, mais il semble que vous fassiez le constat d'une société un peu anesthésiée par trop de facilités d'échange, échange de transport, échange de voyage, facilité dans les relations. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne rêve plus, selon vous ?
Moi, je pense qu'on continue à rêver, on rêve autrement. Mais les rêves qu'on nous évoquons dans ce livre sont essentiellement des rêves de folie, puisque c'était des rêves du 19e et du début du 20e, de lieux qui étaient à ce moment-là inconnus, de destinations que les gens ne pouvaient pas deviner. Ils ne savaient même pas où ils allaient, donc ils étaient les premiers à y aller. Alors évidemment, ça a changé aujourd'hui quand on dit que les gens rêvent moins parce qu'ils se déplacent plus facilement, incontestablement. Quand on fait un Paris La Réunion en 12 heures ou un Paris Nouméa en 23 heures, on est très loin de ce que l'on vivait quand on prenait le temps des choses et quand on découvrait. Là, il y a des gens qui défrichent encore, mais ce sont leurs paysages intérieurs, bien sûr.
Alors, on fête les 10 ans de la disparition de Théodore Monod. Certains disent que c'est l'un des derniers grands aventuriers. Est-ce que vous partagez cet avis ou est-ce qu'il y a encore de grands aventuriers, peut-être même encore méconnus aujourd'hui ?
Alors, il y en a encore de grands, méconnus moins, parce qu'aujourd'hui, quand même, on a les moyens de les connaître. Et d'ailleurs, dans notre livre, en effet, Théodore Monod est un des derniers à nous avoir quittés. Il y a des gens que j'ai bien connus, comme Paul-Émile Victor aussi, comme Haroun Taziev, comme tous ces gens qui nous ont fait rêver, quand même, chacun dans leur domaine. Mais Théodore Monod avait quelque chose, sans jeu de mots sur son nom, mais très monomaniaque, très obsessionnel. Et il allait, juste cette idée de marcher dans le désert, découvrir et encourager le sauvetage de ces magnifiques manuscrits à Chinguetti, là où je suis allé pour les besoins de ce livre, c'est-à-dire en plein désert mauritanien. Voilà, on retrouve des manuscrits qui datent de 10 siècles. C'est formidable que des gens aient cette passion-là, continuent à avoir cette passion-là. Et quand je le recevais dans mes émissions, que ce soit sur Vol de Nuit, sur Ex Libris, eh bien, il arrivait toujours avec des petits cailloux, des petits bouts de météorites. Il me disait, voilà, rendez-vous compte, c'est tombé sur Terre il n'y a encore pas si longtemps. Alors, pas si longtemps pour lui, c'était plusieurs millénaires, mais c'était quelque chose qui m'emballait, quoi. Ce genre de personnage m'a beaucoup plu.
Alors, restons sur ce portrait que vous traitez dans votre ouvrage. Théodore Monod était un homme qui était dévoué à sa recherche, à son aventure. Est-ce que vous pensez qu'à son image, les aventuriers, ces rêveurs aventuriers, étaient un peu égoïstes ou sont un peu égoïstes ?
Je pense qu'il faut l'être. Il faut en tout cas d'abord se supporter soi-même. C'est déjà quelque chose. Donc ce sont des gens qui ont un grand goût de la solitude, qui se passent des autres et qui, à force de se passer des autres, parfois, peuvent devenir forcément misanthropes. En l'occurrence, Théodore Monod ne l'était pas, mais il avait une ascèse qui, alors, était sa religion, était sa nature profonde. Il n'empêche que c'est quelqu'un qui avait besoin de rien. Il avait juste besoin d'une gourde avec de l'eau, pour pouvoir avancer encore un peu plus loin dans le désert. Et ces gens qui n'ont besoin de rien, évidemment, sont beaucoup plus forts que les autres. Parce que ceux qui sont en demande de béquilles, de toute nature, évidemment, c'est ceux-là qui boitent.
Alors, sur quels critères vous vous êtes fixé pour réduire cet ouvrage à 30 portraits ? J'imagine que ça n'a pas dû être évident de faire la sélection.
Non, ça n'a pas été simple. Il n'est pas possible, d'ailleurs, qu'un jour, il y en ait un autre avec 30 autres portraits.
Parce le tome 2 ?
Oui, parce que ces gens-là, au fond, un, il faut qu'il nous ait fait rêver. Deux, il faut qu'il soit aventurier dans l'âme. La plupart d'entre eux sont vraiment aventuriers. Certains sont plutôt des scientifiques, d'autres sont des écrivains, comme London ou Rimbaud, etc. Mais enfin, en gros, ce sont quand même des gens qui sont allés jusqu'à brûler, comme Icare, qui s'approche trop du soleil, jusqu'à brûler leur vie. Ou comme Michel Vieuchange, dont on parle, qui est un personnage formidable, lui aussi passionné par le désert, qui va essayer de découvrir cette ville qui finalement va le faire mourir, très jeune, il va mourir en 1930. Et donc, voilà, il fallait que ce soit des gens dont les dessins soient incandescents.
Alors, un autre portrait que vous dressez dans votre ouvrage, c'est celui de Jean-Baptiste Charcot. Mmh. On a parlé de Théodore Monod qui était à l'Académie des sciences, Jean-Baptiste Charcot l'était aussi. C'est un portrait un peu atypique, vous me direz, le sont tous, puisque Jean-Baptiste Charcot a suivi au début les traces de son père médecin, avant de bifurquer, d'opter pour sa passion qui est la mer et l'épaule. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce personnage?
C'est ce qu'il y a de très beau avec ce genre de personnage, c'est qu'à un moment donné, ils sont tout entiers... avalés par leur passion. Et cette passion se fait absolument chronophage d'abord, et puis ensuite les absorbe tout entier, et ils vont jusqu'au bout, et il est appelé son bateau le pourquoi pas. C'est magnifique, ça dit tout. Je trouve que c'est une tellement belle devise. Chacun devrait la faire sienne, avec ce point d'interrogation derrière. Et cette fin aussi, quand même, c'est le premier bateau à s'être fait prendre par les glaces et à avoir vécu ce moment qui doit être un moment de terrible solitude, même s'il y avait du monde sur le bateau, où on sent craquer la glace autour du bateau. Va-t-elle briser les jointures du navire? Va-t-elle vous libérer 6 mois plus tard quand arrive la fin de l'hivernage? Voilà, tout ça est très beau et sa disparition, je dirais, elle est tout autant. Et souvent, dans les destins dont on parle avec mon frère, les disparitions, les fins, les morts ont quelque chose soit de mystérieux, soit de grandiose. En tout cas, elles grandissent. Curieusement, les destins, qui sont parfois des destins terribles et très fugitifs, comme celui d'Isabelle Ebrard, qui a elle aussi, qui n'a pas 30 ans quand elle meurt, dans un ouest en Algérie. Voilà, c'est ça qui fait au fond un homme ou une femme, enfin en tout cas un personnage héroïque, c'est la rencontre d'une circonstance et d'un destin.
Alors c'est une vie fulgurante, parfois certains, comme Théodore Monod, vivent quand même jusqu'à 98 ans.
Je pense que le désert conserve. Je pense que moi j'aime personnellement beaucoup les déserts, j'en parle beaucoup dans ce livre, Charles de Foucault et bien d'autres, mais tous ces gens, ou René Caillé qui découvre Tombouctou, tous ces gens qui se retrouvent comme ça dans ce climat, qui est un climat très sec, qui est un climat où seul l'essentiel compte, c'est-à-dire l'eau et éventuellement quelques dattes et enfin de quoi se nourrir, ces gens, en général, terminent toujours très très sec dans tous les sens du terme. Et je pense que ce n'est pas si mauvais que ça pour la constitution.
Alors on va poursuivre sur les académiciens. Un autre académicien dont vous parlez, c'est bien sûr Joseph Kessel, qui appartenait à l'Académie française. Alors on le connaît bien sûr sur le plan populaire pour Le Chant des Partisans et puis pour Le Lion qu'il a publié. Mais j'imagine qu'on ne peut pas le résumer comme ça en deux points.
Non, vous avez raison. D'abord, moi j'ai une tendresse très particulière pour lui. J'ai peut-être la fatuité de penser que, voilà, que c'est un aîné glorieux, mais un aîné, un oncle si vous voulez. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais à peine 17 ans, j'ai écrit 3 lettres à Pierre-Emmanuel, à André Malraux et à Joseph Kessel. Les 3 m'ont répondu. Et la plus longue lettre, donc adressée par un homme au sommet de son art et de la notoriété, à un inconnu de 17 ans, cette plus longue lettre a été signée de Joseph Kessel et je l'ai gardée par-devers moi pendant très longtemps. Je l'ai reproduite même tout récemment dans un livre, parce que c'est comme un viatique de vie. Et j'aime cet homme qui a été, comme je le suis de mon côté, mais très modestement, à la fois journaliste et écrivain. J'aime ça. J'aime quelqu'un qui a un appétit absolu de la vie, tout simplement. À un moment donné, il a voulu, par exemple, suivre le procès du maréchal Pétain. Il a été envoyé par François là-bas. Et j'ai acquis tout récemment les documents de ses notes, donc ses notes originelles, tout au long de ce procès où défilent à la fois Weygand, Laval et quelques grands personnages comme ça. Et je me dis, ben voilà, il a écrit ça, il était... c'était un passionné, quoi. Et il a été aussi passionné par les chauffeurs de taxi russes qui arrivent après la révolution de 1917. Il est passionné par beaucoup de choses. Et l'Afghanistan, il en parle merveilleusement, merveilleusement. Il m'a donné envie d'aller en Afghanistan. Non, c'est un homme que j'aimais beaucoup, beaucoup. Il avait une vraie générosité. Et puis, comme vous l'avez rappelé, il a écrit avec son neveu, Maurice Druon, Le Chant des Partisans, sur une musique d'Anna Marley.
Est-ce que vous pensez avoir un parcours qui se construit en parallèle de celui de Joseph Kessel?
Ben, où il avait quand même... Vous voyez, on était pendant la guerre, donc imaginez là, le destin de ces êtres qui se battent les uns les autres. C'était tout à fait autre chose que nous, là. Nous, on se bat contre des oreillers, c'est beaucoup moins compliqué. Mais l'idée qu'on peut être à la fois journaliste et écrivain, et écrivain la nuit, beaucoup, journaliste le jour, comme son nom l'indique, cette idée m'a toujours habité et Et j'aime bien cette façon d'embrasser le monde d'une manière un petit peu plus panoramique.
Alors, Kessel avait aussi le côté sombre, hein, il avait des moments un peu difficiles. Est-ce que vous pensez que c'est le lot aussi des aventuriers de traverser des moments chaotiques, de souffrance ?
Bien entendu. Alors, en l'occurrence, en ce qui le concerne, en plus, il avait cette âme slave qui vraiment poussait encore un peu plus à des instants de très grande mélancolie et à d'autres de très grande exaltation. Mais c'est sûr que ces gens n'ont pas connu que des lits de roses, hein. Ils ont connu beaucoup d'échecs. Ce sont ces échecs qui les ont formés assez souvent. Et c'est peut-être pour ça que ce sont devenus des grands, sans doute même.
Quel est le personnage qui vous séduit le plus dans cet ouvrage ?
Là, vraiment,
vous avez le plus de fiction ?
Vous savez, c'est un peu comme quand on vient interroger un papa ou une maman sur ses enfants. C'est très, très dur. Si on les a choisis tous les 30, franchement, c'est qu'on les admire tous les 30. Moi, ces vies, je les trouve vraiment exceptionnelles. J'aurais sans doute aimé les avoir. Sans doute que j'ai écrit avec mon frère par procuration, parce que je n'ai pas eu cette vie-là. Donc, vous voyez, c'est une façon aussi, comme ça, d'avoir ma petite vie de héros dans mon coin, d'aventurier. Je les prends tous les 30, si vous me permettez. Et si je choisis 30, justement, c'est parce qu'il y a 30 jours dans le mois, la plupart du temps, et que donc, moi, il m'en faut un par jour.
D'accord. Et puis, rappelons qu'il y a aussi des femmes, hein. On n'en a pas parlé, enfin, vous en avez parlé, vous avez évoqué rapidement certains noms. Il y a 6 femmes sur 30, hein. C'est pas encore la parité, mais c'est normal.
Non, mais je pense qu'on a fait plus d'efforts que d'autres dans leurs ouvrages. Ça me frappe de voir qu'on oublie souvent les femmes. Une femme comme Anita Conti, que j'ai eu la chance de rencontrer, d'interroger également sur le plateau d'Ex Libris, et qui est, elle aussi, s'est éteinte très âgée. Anita Conti a été sur des bateaux à pêcher la morue jusqu'à 80-90 ans. C'est formidable. D'ailleurs, on lui rend hommage sur la côte normande en permanence. Bien sûr, Anne-Marie Schwanzenbach, à Isabelle Ebrard, on parle d'Isabella Bird, que les gens connaissent peu, qui est une aventurière américaine qui a beaucoup sillonné le monde entier. Alexandra Davinel, quand même un personnage majeur. Voilà, il y a tout un certain nombre de femmes qui nous ont beaucoup plu. Une autre encore que j'ai interrogée, qui nous venait, elle, de ces montagnes suisses, qui était Ella Maillard. Et ces gens-là étaient très, très, très courageux. Encore plus évidemment que les hommes, puisqu'il y avait à se défendre contre des tas d'agressions possibles, et c'était des filles bien, bah, tout court.
Et des femmes de caractère.
Et de caractère, exactement.
Alors, bien sûr, vous l'avez précisé, c'est une liste non exhaustive, hein. Peut-être réaliserez-vous le tome 2. Est-ce que vous pensez faire quelque chose sur Tabarly, par exemple ?
Moi, alors, Tabarly, si on ne l'a pas pris là, c'est qu'on l'avait mis dans un autre volume, parce qu'on a fait toute une histoire de la marine en 5 volumes, le dernier volume étant consacré aux aventuriers solitaires, comme justement Slocum, par exemple, qui a été le premier d'entre eux à faire le tour du monde sur son petit bateau, le Prêt, et le dernier donc étant Tabarly. Voilà, on a beaucoup parlé dans ce livre qui s'appelait Solitaire de l'extrême avec mon frère de ses aventuriers. C'est pour ça qu'on n'a pas gardé Eric dans cette galerie-là.
Est-ce que vous avez hésité à faire entrer Jacques-Yves Cousteau ? Est-ce que vous le considérez comme un aventurier ?
Jacques-Yves Cousteau, oh oui, bien sûr, c'est un aventurier. Un aventurier qui en plus savait très bien parler de ses aventures et avait un côté didactique que j'appréciais. Donc lui aussi viendra tout naturellement dans cette deuxième galerie à venir.
Et Steve Fossett, dont on a parlé.
Alors Steve Fossett, oui, en effet, sa disparition est beaucoup plus récente. Je l'ai côtoyé, notamment on a fait une course ensemble, un Québec-Saint-Malo. Au début, j'avais une espèce de réticence parce qu'évidemment c'était un milliardaire qui dépensait comme ça son argent. Et puis en fait, plus j'examine sa vie, plus je m'aperçois qu'il lui aussi va jusqu'au bout de ses passions. C'était, à mon avis, ce n'était pas que des caprices, comme certains l'ont dit.
Eh bien, je vous remercie, Patrick Poivre d'Arvor. Je rappelle Merci. Le titre de votre ouvrage réalisé à quatre mains avec votre frère Olivier, Jusqu'au bout de leurs rêves, publié Place des Victoires 2010. Merci.
Merci, Olivier.